Bonjour, prenez place. La cloche a sonné, mais je crois que vous êtes comme moi, vous ne l'avez pas entendu. J'attendais la fin de la sonnerie de la cloche, mais nous commençons en retard, pardon. Si vous êtes levé du pied gauche, ou peut-être du pied droit, si vous êtes arrivé rouge de colère, ou en chemin avez eu une peur bleue, ou avez l'humeur chagrine, si vous broyez du noir, vous voyez la vie en rose. Si vous avez le moral dans les chaussettes ou au beau fixe, les enfants et peut-être d'autres, vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, mais ça ne fait rien. Il n'y a pas de souci. Hein? Vous êtes tous les bienvenus dans ce culte. Nous sommes heureux que vous soyez là et je pense que Dieu est aussi heureux que vous soyez là, même si je ne peux pas parler à sa place. Tout d'abord, quelques annonces. Le mardi de cette semaine, atelier biblique à 20h, le thème obsèque, survol biblique, la pratique. Et le 18 octobre, il y aura un concert du groupe Écriture. Les personnes qui accompagnent ce groupe, deux hommes et une femme, ont besoin d'un lit, d'une chambre pour deux nuits, pour le 18 et le 19 octobre. Prière de vous adresser à Thierry si vous avez un ou deux lits de disponibles. Merci. Maintenant, je passe la parole à Philippe qui a une annonce à nous faire.
Bonjour à chacun, chacune. Nous avons appris ce matin le décès d'Armand Henniger, que Dieu a repris à lui ce matin à 6h. Et voilà, nous vous tiendrons au courant, bien sûr, pour le jour et le lieu des obsèques. En attendant, j'aimerais simplement prier pour la famille. Notre Dieu et Père, toi tu tiens entre tes mains la vie, le souffle de la vie. Nous nous souvenons que tu es le grand vainqueur. Et puis ce matin, nos cœurs sont lourds. Mais nous voulons te dire notre reconnaissance pour la vie d'Armand. Chacun, chacune ici pourrait dire tant de choses. Il y aura un temps pour ça, Seigneur. Mais pour les heures qui viennent, j'aimerais te demander de déployer sur toute la famille Henniger les ressources de ta grâce, ta consolation, ta paix, ta sérénité. On pense particulièrement à Heidi ce matin, en te demandant que tu la visites et que tu la soutiennes. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'assurance d'une présence pour toujours à tes côtés. Notre frère Armand y goûte maintenant. Et nous te le recommandons. Je te prie de passer aussi au milieu de nous, Seigneur, près de celles et ceux qui accueillent cette nouvelle avec tristesse. Viens déployer là aussi cette consolation que toi tu sais donner. Dans le nom de Jésus. Amen.
Oui, c'est une figure des assemblées évangéliques suisses romandes qui s'en va. Il a eu une vie pleine, remplie, avec des jours gris, des jours moins, des jours heureux. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'il vit dans la joie de la présence de son Seigneur. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont deux verbes, goûter et voyer, qui font appel à nos sens, pas à notre intellect. Donc je vous invite ce matin à goûter et à voir la bonté de Dieu. J'aimerais bien savoir comment vous aurez fait cette expérience si jamais vous me raconterez. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, tous autant que nous sommes, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta voix qui vient nous dire, pas de soucis, je t'aime. N'aie pas peur, va de l'avant. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la peine. Nous te prions pour tous ceux qui seront sur cette terre et qui souffrent dans la guerre ou d'autres circonstances. Seigneur, que la raison revienne à ceux qui la veulent et soutient ceux qui en souffrent. Nous te remettons aussi tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, que ton Saint-Esprit soit avec eux. Merci Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes jamais. Tu es avec nous dans ce culte. Que ta parole nous donne la vie ce matin. Amen.
Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être là. C'est une joie d'être ensemble pour louer le merveilleux Jésus, pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Je lis dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce, nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, le roi des rois. Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
la paix. Dans la confusion, on change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Entends-tu les coups qui frappe sur ton cœur? Entends-tu, écoute, car il est bientôt là. Il t'attend à l'oreille de ton âme. Il te tend. Viens au secours de mon peu de foi. Viens mon amour, j'ai tant besoin de toi. Tu es l'unique, éclatant dans ta gloire. Par ton don magnifique, je connais l'espoir. Thank you.
Je chanterai en l'honneur de son nom.
Nous prions pour les enfants. Seigneur, nous t'avons chanté, nous sommes dans ta présence. Merci pour les enfants, merci pour leur vie, leur vivacité, leurs questions, leur étonnement, leur simplicité à recevoir ta parole. Leur personne est en train de se former pour leur vie. Seigneur, veille sur cette formation, veille à ce qu'ils reçoivent, ce qui est bon pour construire leur vie sur une base solide. Nous te les remettons ce matin, accompagne-les par ton Saint-Esprit, accompagne leurs moniteurs, Kevin et Nicolas. Merci Seigneur. Amen. Les enfants, vous pouvez rejoindre vos groupes.
Oui. D'avoir accueilli Armand dans son siège, oui. Mais nous voulons aussi remercier Dieu de nous avoir donné Lydia, son arrière-petite-fille, qui fête ses 9 ans aujourd'hui.
Ah.
Ce matin, nous avons un invité surprise, un chef de couvent qui a été involontairement, bien malgré lui, je pense, à l'origine de la réforme. Monsieur von Staupitz, où est-il ? Il faut que j'aille le chercher, je crois. Allez, voilà, bonjour.
Bonjour, Madame Denise. Je m'appelle Johann von Staupitz. Je suis né en 1460 à Mayence. Vous ne me connaissez sans doute pas, mais sans le faire exprès, je suis moi à l'origine de la réforme dont vous êtes, frères et sœurs, au bénéfice aujourd'hui. Je suis le supérieur d'un couvent de moines augustins dans la petite ville de Wittenberg, capitale de la principauté de Saxe. Notre bon prince, Frédéric, est un homme important sur le plan international. C'est l'un des 7 hauts personnages qui décident de l'élection de l'empereur du Saint-Empire germanique. Frédéric, notre bon prince, est très fier de l'université qu'il a fondée à Wittenberg en 1502. Moi, Johann von Staupitz, j'en suis le doyen. Et mon couvent est très impliqué dans l'enseignement qui s'y donne. Il faut que je vous dise qu'à notre époque, les universités s'occupent beaucoup de théologie et de philosophie, comme à la Sorbonne, petite sœur de notre université. Eh bien, j'avais dans mon couvent un moine très zélé, un moine qui avait une affreuse peur de Dieu. Ce moine a formé le vœu d'entrer dans les ordres après avoir manqué être frappé par la foudre. ce Martin Luther était constamment tourmenté. Tourmenté par ses péchés réels ou imaginaires. Mais il pensait que Dieu allait le juger d'une façon impitoyable pour la moindre de ses fautes. Martin Luther ne voyait que la sainteté de Dieu et jamais son amour. Et donc sa conscience, son intérieur n'était jamais en paix. Vous savez peut-être que la vie monastique offre aux moines quelques ressources pour s'approcher de Dieu. La prière, seule ou en communauté, plusieurs fois par jour, des lectures pieuses, l'intercession de Marie et des saints, et les sacrements. Mais voilà que Martin Luther ne trouvait la paix ni à travers l'Eucharistie, ni dans la confession de ses péchés. Il faut que je vous dise qu'une fois, il a passé huit heures à se confesser auprès de moi. Et voilà que je lui avais à peine donné l'absolution que tous ses doutes reprenaient. Pour qu'il soit pardonné, Martin Luther devait tout confesser. Mais quand je dis tout, c'est absolument tout. Et il fallait que sa confession elle-même soit parfaite. Sinon, il péchait tout en se confessant. Sinon, ses mots de confession eux-mêmes l'accablaient. Pour être en paix avec Dieu, il s'obstinait à éliminer le péché sous toutes ses formes, par tous les moyens, y compris la violence contre soi, sans jamais y parvenir. Et je n'arrivais à le sortir de là, ni dans le confessionnal, ni ailleurs. À Martin Luther, c'était pourtant un homme bien, par ailleurs, avec un très grand potentiel intellectuel. Moi, je l'ai encouragé à faire un doctorat. En même temps, je lui ai demandé d'occuper la chaire de la Bible à l'université. Il faut savoir qu'à mon époque, la Bible n'était pas dans les sujets de base de la théologie. Nous étions novateurs en la matière. À ma demande donc, Luther a étudié, puis enseigné les psaumes, puis les épîtres de saint Paul aux Romains et aux Galates. Et à mon grand étonnement, Martin Luther a fini par trouver dans la Bible la réponse à ses questions. Un matin, il est venu me réveiller en me disant qu'enfin, il avait trouvé la paix avec Dieu. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de ses fautes. Psaume 31. Là, Luther a compris que le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Et que la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile. Et c'est une justice qui ne condamne pas le pécheur, mais une justice que Dieu lui donne grâce au Christ qui est mort à sa place. Alors moi, j'y ai vu quelques échos de la pensée de notre saint patron, saint Augustin, mais j'étais surtout heureux pour mon frère, Martin Luther, tout en ne pouvant pas prévoir la suite. Car ces années-là, un moine dominicain du nom de Tetzel parcourait l'Allemagne avec l'appui des autorités pour vendre des indulgences. C'est quoi les indulgences ? Une indulgence, c'est la rémission des peines qu'encourt le péché. Pour nous, catholiques, très peu de gens allaient directement au ciel après leur mort. La plupart des baptisés, et des baptisés seulement, allaient dans le purgatoire pour y subir les souffrances de l'enfer, mais pour un temps limité. À un moment donné, ils finissaient de purger la dette qu'ils avaient envers Dieu, mais les vivants s'inquiétaient beaucoup pour eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour leur chair disparue. Alors, par de bonnes œuvres, ils pensaient raccourcir le temps du purgatoire. Et parmi les bonnes œuvres, des dons en argent destinés à financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ils pouvaient même faire porter leurs dons au crédit de leurs parents décédés. En prêchant cela, Tetzel avait trouvé un excellent filon. Et ses supérieurs, dont l'archevêque de Mayence, étaient très contents de lui. Celui qui n'était pas content, c'était Martin Luther. Mais alors pas content de chez pas content, pas content du tout. Docteur en théologie, pasteur des âmes, il ne supportait pas de voir les gens du peuple escroqués de la sorte, et encore moins de les voir placer leur espoir ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il avait tant peiné, lui, à trouver la paix avec Dieu. Il savait quel était l'enseignement de la Bible à ce sujet. Et maintenant, ce Tetzel, avec l'appui des autorités, vient remplir l'Allemagne et le monde avec une fausse doctrine. Il donne aux gens l'illusion qu'on peut acheter son salut. Alors, trois fois, en 1516, Martin Luther a prêché contre les indulgences. Puis en 1517, la veille de la Toussaint, quand le prince offrait aux fidèles ses propres indulgences, Martin Luther a proposé un grand débat sur ce thème. Il a rédigé 95 thèses à débattre, qu'il a distribuées dans l'université, affichées ici ou là. Le sujet était si grave que Luther était prêt à affronter les autorités de l'Église et du Saint-Empire germanique, parce qu'il en allait du salut des âmes et de la paix avec Dieu. En 1517, personne ne le savait, mais c'était le début de la réforme.
J'ai pas l'habitude, pardon. Nous lisons dans Romains 1, le verset 17. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. Et dans Romains 3, les versets 21 à 28. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'attestent. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ qui les délivre de leur... Non, Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés, par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang. Le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains. Il l'est dans le temps présent, car il veut être à la fois juste et rendre juste tous ceux qui croient à la fidélité de Jésus. Y a-t-il donc encore une raison de nous enorgueillir? Non, aucune. Au nom de quoi disons-nous merci? D'une loi à laquelle il faut obéir? Non, par une loi qui invite à la foi. Nous estimons en effet qu'un être humain est reconnu juste par la foi et non parce qu'il obéirait à la loi.
Nous sommes en 2024 et nous allons regarder d'un petit peu plus près, pour les instants qui nous restent, une phrase qui résume un principe fondamental de cette fameuse réforme. Et je prends donc pour ce matin, dans cette hors-série du Sermon sur la montagne, on y reviendra dans 15 jours, mais je prends ce matin le mot d'ordre qui est à l'origine de tout. La justification par la foi seule. C'est sans honte, en effet, que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste vivra par la foi. Voilà ce mot qui effrayait tellement Luther, la justice de Dieu. Il en tremblait, il en perdait la raison. Il se fourvoyait, la justice de Dieu lui faisait affreusement peur. Allez devant la cathédrale Notre-Dame de Paris ou devant d'autres grandes églises du Moyen-Âge, allez-y. L'image qu'on donne du Christ, c'est cette image que l'on appelle le Christ en majesté. Il est sur son trône, il juge le monde, à sa droite, les justes sont reçus par les anges dans le paradis. À sa gauche, les injustes sont accueillis par les démons de l'enfer. C'est cela l'image que Luther a du Christ. C'est peut-être l'image que nous avons du Christ. Et il faut dire que cette justice de Dieu qui condamne, elle est bien présente dans l'Épître aux Romains. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Elle est là, en Romains 1 à 3. La justice de Dieu se révèle. Les Juifs qui ont la loi de Dieu sont alors condamnés pour ne pas l'avoir respectée, les 10 commandements au poulailler. Ceux qui n'ont pas la loi de Moïse, nous, sont condamnés parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de leur conscience. La justice de Dieu se révèle, dit Romains 3, Romains 1 à 3, elle se manifeste. Mais Romains 1, 17 dit que la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile, qui est littéralement Evangelios en grec, c'est la bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire Évangile. Quand on lit l'Évangile, un Évangile, de l'Évangile, nous lisons une bonne nouvelle. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour Luther au départ. Jusqu'à ce que von Staupitz lui recommande d'étudier la Bible. Il a bien fait le gaillard. Et là, stupeur pour Luther, qui lit que la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. Et c'est une formulation assez curieuse. Ce n'est pas la justice d'une cour de justice. Ce n'est pas un verdict, puisque c'est pour la foi et par la foi. C'est une justice donc qu'on reçoit, une justice qui ne vient pas de nous, une justice qui ne peut venir que de Dieu. Comment Dieu peut-il donner une justice qui efface notre injustice ? Luther va développer ça, il va parler d'une sorte d'échange. Christ assume notre injustice et nous recevons à la place sa justice parfaite. Dans le langage de la théologie, nous appelons ça la substitution. Il prend notre place, mais non seulement il prend notre place, mais il nous donne la sienne. Et c'est cela, et cela seulement, qui peut expliquer le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, bien-aimé, ne dépend pas de nos bonnes œuvres. Il dépend de ce que Jésus a fait à la croix. Nous avons lu cet autre texte des Romains qui le résume si bien en Romains 3, 1 à 28. Dieu est juste parce qu'en Christ, notre péché est absorbé, il est mangé, il est digéré, il est vaincu. Et si notre péché est absorbé, alors nous en sommes soulagés, libérés, délivrés. Dieu nous déclare donc justes. Il nous déclare juste. Et c'est ça la fameuse justification par la foi. C'est que Dieu nous déclare juste. C'est même la justification par la foi seule, tout à fait indépendamment des œuvres qu'exigerait la loi de Moïse ou la loi de notre conscience. Nous avons failli et nous faillirons jusqu'à notre dernier souffle. Mais nous sommes déclarés justes. Alors dans les textes bibliques que Luther a découverts, ça semblait si clair. Quand on les lit comme ça, ça semble si clair. Mais la justification par la foi seule a suscité des malentendus majeurs depuis les temps bibliques jusqu'à nous aujourd'hui. Et pour conclure, j'aimerais en citer 3 de ces malentendus qui nous collent au basque. Mon premier malentendu, c'est sur le sens des mots « justifié » ou « justification ». Dans le langage courant, nous disons, nous, qu'une action est justifiée quand ce qui la motive est juste au départ. ou quand les faits démontrent qu'une action était nécessaire. Alors si elle était nécessaire et que l'action est rendue, elle est justifiée. Mais la justification par la foi, c'est pas ça. Nous étions bel et bien condamnables à cause de nos fautes. Dans l'épître de Jacques, on nous parle de la justification par les œuvres. Parce que c'est aussi une doctrine biblique, la justification par les œuvres. Parce que dans cette lettre, Jacques parle de ce qui démontre la justice, pas ce qui la produit. Et ce qui démontre la justice, ce n'est pas notre adhésion à un credo, à une confession de foi, mais ce sont des actes qui découlent de la foi. Abraham a été justifié par sa foi, dit Paul. Et Jacques dit qu'Abraham a été justifié par ses œuvres. Les deux, mon général. Comment être reconnu juste alors dans la vie? Eh bien, forcément, ce sera par la manifestation de bonnes œuvres. Pour être reconnu, pour être discerné comme injuste. Pas pour devenir juste. Mais pour qu'on dise, ok, c'est injuste, c'est une juste. Ce sont nos œuvres qui le démontreront. Pour nos amis catholiques, et c'est un point important ça, la justification ne couvre pas seulement l'instant initial de notre conversion à Dieu et notre pardon, mais elle couvre surtout les progrès dans une vie juste, jusqu'à la fin. C'est ce que nous, évangéliques, nous appelons la sanctification. Qu'on ne donne pas le même sens aux mots d'un côté ou de l'autre, ça complique parfois les discussions. Alors pour bien comprendre ce leitmotiv de la réforme, il nous faut comprendre le sens que l'on donne, nous, à la justification par la foi. Et ici, la justification par la foi, c'est le pardon entier que Dieu donne à celui ou celle qui met sa foi en Christ. C'est une déclaration juridique. T'es juste, parce que Dieu te déclare juste. Mon deuxième malentendu porte toujours sur cet aspect de la justification par la foi seule. Parce que ça semble dire, quand on dit qu'on est justifié par la foi seule, ça semble dire que l'être humain, nous autres, par un effort énorme, on arriverait à générer assez de foi pour que Dieu nous aime et nous accepte. Nous ne méritions pas le salut par nos œuvres, mais nous le mériterions par la puissance de notre foi. Mais non. Car la foi dont nous parlons est une réponse même à ce que Dieu offre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je ne peux même pas m'enorgueillir d'avoir su dire à Dieu oui quand il m'a appelé. Parce que même cette capacité à lui dire oui ne venait pas de moi, mais venait de lui. Et c'est pour ça qu'on parle du salut par la foi, seul, au moyen de la grâce de Dieu. Même moi, je suis incapable de lui dire oui. Ce oui doit venir de lui. Le slogan « par la foi seul » dépend donc d'un autre mot-clé de la réforme, « par la grâce seule ». Sola gratia, la grâce de Dieu est première, toujours. La grâce de Dieu est première, toujours. Et je finis par un autre gros malentendu. C'est celui qui consisterait à accuser Luther et nous autres évangéliques avec lui de dire que la foi seule suffit pour être un bon chrétien. Une bonne chrétienne. On ferait ce qu'on veut, à condition d'avoir la foi, et tout roule. On aurait le beurre et l'argent du beurre. On est juste et pécheur. On profite des deux. La grâce, puis je fais ce que je veux. Et c'est ça que l'épître de Jacques vient condamner fermement. Moins grossièrement, il me semble que certaines présentations de l'évangile en milieu évangélique passent sous silence le fait que le Christ nous appelle à vivre en disciple. Martin Luther, dans une image typique qui m'a profondément marqué, compare la foi et les œuvres à la lumière et à la chaleur d'une bougie. La foi et les œuvres, ça marche ensemble. La lumière et la chaleur d'une bougie, ça marche ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. L'épître de Jacques en dit tout autant. L'épître aux Romains même, après avoir développé le thème de la justification par la foi seule, consacre plusieurs chapitres à la pratique d'une vie juste. C'est la foi seule qui justifie. Mais la foi qui justifie ne reste jamais seule. C'est la foi seule qui justifie. Mais la foi qui justifie ne reste jamais seule. Je conclus. La redécouverte de la justification par la foi seule a permis à ce célèbre moine Martin Luther de trouver enfin la paix avec Dieu, avant de plonger dans des conflits de plus en plus durs avec l'Église de son temps. Si nous découvrons le salut par la foi, nous aussi nous aurons la paix avec Dieu. Et quelles que soient les difficultés de la vie, nous continuerons à en vivre de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu motivera notre amour, notre progrès dans nos relations pour Dieu et nos prochains. Alors, permettez-moi, chers amis, de juste nous poser cette question. Comment est-ce que vous vivez votre relation avec Dieu? Est-ce que vous êtes dans le brouillard, en ne sachant pas dans quel sens votre vie va ou quel sens donner à votre vie? Est-ce que vous êtes dans le brouillard? Est-ce que vous êtes dans la peur, la racine de votre mal-être, c'est peut-être de ne pas être en règle avec Dieu. Peut-être vous êtes loin de lui, loin de lui. Et ça, c'est grave. La Bible annonce que la réconciliation est possible par le pardon gratuit sur une base très simple. Christ est mort pour vous en portant vos péchés à la croix. Choisir Christ, faire confiance à Christ, c'est dissiper le brouillard, c'est apaiser les angoisses et c'est trouver la paix avec Dieu. Comment est-ce que vous vivez votre relation avec Dieu? Dans une fausse confiance, sans vous préoccuper le moins du monde d'une vie en disciple. Une vie en disciple, ce n'est pas une vie parfaite, hein? Une vie en disciple, c'est une vie incarnée, une vraie vie, une vie de terrain. Ce n'est pas une vie où on ne dit jamais un gros mot, où ça part jamais en vrille. C'est une vie où on marche avec le Seigneur, avec tout ce que ça implique, de chute, de lutte, de relever. Est-ce que vous dites, c'est formidable la grâce de Dieu, mais après qu'il me foute la paix? Ah, on ne dira pas comme ça, mais on le manifestera comme ça. Je marche avec Dieu, mais c'est bon. Si telle est votre façon de vivre, votre relation avec Dieu, je vous dis honnêtement que ça ne matche pas. Il faut tout recommencer. Parce que votre vie, elle dirait qu'en fait, vous n'êtes pas justifié par la foi. Vous êtes juste un peu religieux, sur les bords. Le bonheur de la personne qui trouve comme Luther le pardon inconditionnel de Dieu, ce bonheur, c'est de marcher jour après jour avec le Seigneur et de voir et goûter comme il est bon. La marche avec Dieu, c'est sensuel. Luther a connu tellement de conflits après. Et nous allons en avoir, nous aussi, des conflits intérieurs, extérieurs. La joie du pardon, elle s'exprime alors dans notre vie de disciple. Même au milieu des combats, même au milieu des tensions, même au milieu de tout ce que j'arrive pas à faire, Je marche avec lui parce qu'il m'a déclaré juste dans la vie et dans la mort. Je suis à lui parce qu'il m'aime et parce qu'il me veut en route avec lui. Johann von Staupitz n'a pas suivi Luther dans le conflit qui s'est déclaré avec l'Église de Rome. C'était un homme de paix, Johann von Staupitz, pas un combattant. Mais à sa manière, il a contribué à libérer Martin Luther de ses peurs et il a contribué à libérer la parole de Dieu de ses chaînes. Nous pouvons remercier Dieu pour Johann von Staupitz. Remercier Dieu pour Martin Luther, les réformateurs, imparfaits, hein, pas des dieux, des bonhommes. Remercier Dieu pour ceux qui nous ont précédés, ouvert la voie et montré à quel point la justice de Dieu se manifestait dans leur vie. Amen.
Que de choses à dire, que de choses à goûter et à voir. Je vous invite à prier pour en rendre compte, ou pour rendre compte de notre difficulté, ou pour prier les uns pour les autres. Nous prions. Seigneur, tu nous aimes et tu nous reçois tels que nous sommes. Merci. Amen.
Ressentir et revoir cette bonne nouvelle que tu nous transmets ce matin, qu'est-ce que ça fait du bien. Que nous sachions la garder au fond de notre cœur, mais aussi la manifester autour de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Oui, merci Seigneur. Seigneur nous aime tel que nous sommes, mais il m'aime trop pour me laisser là où je suis. Et Seigneur, aide-moi, parce que ce n'est pas facile. Amen.
Amen.
Et merci Seigneur pour la Bible que tu nous as laissée et qui nous permet de purifier, d'ajuster et de nous transformer afin que nous puissions vivre selon ce qu'elle dit, selon ce que toi tu dis à travers la Bible. Merci encore pour cette grâce que nous avons.
Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ce. Parce que tu as inspiré ces hommes, Seigneur.
Ouais.
Et que ça continue avec la Bible, Seigneur. Moi, je ne la connaissais même pas. Merci, Seigneur, parce que ta parole, c'est vrai. Et elle est claire et puis elle donne sens à la vie. Merci, Seigneur, pour le pardon. Merci, Seigneur, pour, oui, pour toute la paix que tu donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses jamais tomber. Merci Seigneur pour le reste qui nous reste à vivre. Tu m'aides, Seigneur, à poursuivre cette route, Seigneur, toujours dans la confiance. Et puis aussi, Seigneur, que tu me montres vraiment les choses que je dois faire, les choses que je dois vivre. Oui, le juste chemin, Seigneur. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu donnes la paix à ceux qui viennent à toi. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur d'avoir tout accompli. Seigneur, merci de ce que nous avons l'assurance de ce salut que tu nous accordes par la grâce, par la foi. Seigneur, que nous soyons émerveillés de cet amour qui ne varie pas, Seigneur. Même quand je pêche, Seigneur, ton amour ne change pas. Merci pour ton esprit qui me conduit à revenir à toi chaque fois. Seigneur, merci pour cette vie qui vaut la peine et qui est magnifique.
Ouais.
Et merci pour cette vie éternelle dans ta présence. Et Seigneur, merci parce que nous avons cette assurance que Armand est entré dans cette vie éternelle et qu'il l'a manifestée par toute sa vie. Ô Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te bénir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, merci pour les personnes qui nous ont précédés,
ouais.
qui n'ont pas gardé ce qu'ils ont reçu de toi pour eux, mais qui ont vécu en disciples, en te suivant et en s'accrochant à ta grâce, cette seule grâce qui nous suffit.
Ouais.
Permets-nous à notre tour, chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui, de ne pas garder pour nous, mais d'aller et de partager cette grâce autour de nous.
Amen.
Amen.
Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont accablés par le poids de leur faute, qui savent qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais et qu'ils sont indignes même de recevoir ton pardon. Nous te prions pour eux afin que, comme Martin Luther, ils voient le cadeau que tu veux leur donner. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Amen.
Amen.
Nous allons chanter un chant maintenant pour la première fois en Église de Glorious Saint-Esprit. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai écouté ces paroles, ça m'a fait bizarre parce que ça dit « Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. » Alors c'est vrai qu'en tant que baptisé, on est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint vit en nous. Alors, pourquoi lui demander de descendre sur nous? Alors, c'est une prière. Et Jésus, lui qui adorait prier son Père, il est allé vers Jean-Baptiste et il lui a demandé de le baptiser dans le Jourdain pour que le Saint-Esprit descende sur lui, telle une colombe. Alors, a fortiori, nous, pécheurs, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de descendre sur nous dans la prière. Nous avons besoin de renouveler notre engagement spirituel. Nous demandons une intensification de son action, tout en reconnaissant avec humilité nos faiblesses. Inviter le Saint-Esprit dans la communauté est un moyen de rechercher une unité spirituelle. Nous avons le désir de voir l'Esprit de Dieu se manifester et faire une réelle différence dans notre vie, dans notre communauté et également dans la société. Alors oui, chantons que l'Esprit Saint descende sur nous.
Embrasse-nous.
je n'ai plus peur.
Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends.
Nous allons vivre la Sainte Cène. J'ai le souhait que dans cette Sainte Cène, chacun d'entre vous puisse vivre ce que ce chant propose, à cause du Saint-Esprit, de tout ce qui nous donne de la part de Dieu, nous n'ayons plus peur. La Cène est le lieu par excellence où nous voyons s'exercer la justice de Dieu. Jésus est mort à notre place. Et nous voyons aussi s'exercer sa miséricorde, son désir d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, parce que nous sommes aimés et pardonnés. Quand nous prenons la scène, nous pouvons accepter ce que nous sommes au regard de Dieu, des êtres humains, pécheurs, qui n'arriveront jamais à obéir à la perfection à Dieu. Et aussi, recevoir le pardon de Dieu. Cessez d'avoir peur de son jugement. Cessez de baisser la tête et de nous mortifier. Mais relevez la tête, nous mettre debout et aller de l'avant sur le chemin qui est propre à chacun d'entre nous, que Dieu ouvre spécifiquement pour chacun d'entre nous. Aller sur ce chemin avec la lumière et la chaleur de la bougie. Avec la mort de Jésus, Dieu a mis fin à notre culpabilité et nous a ouvert tout grand ses bras d'amour. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant. l'homme qui a reçu et accepté le cadeau de Dieu, l'homme qui se sait aimé et pardonné par-dessus tout.
Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. »
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné par amour pour nous. La coupe de vin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé pour nous offrir gratuitement la réconciliation avec Dieu et avec nous-mêmes, pour nous laver de notre culpabilité. Nous allons passer dans les rangs. Le jus de raisin est dans les gobelets violets. Souvenez-vous, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Si quelqu'un veut la coupe, il peut faire signe à Philippe. goûté. Nous avons reçu le pain et le vin. Nous avons goûté et vu. En signe que nous avons reçu et accepté le cadeau de Dieu, je vais vous demander, si vous l'avez reçu, hein, de vous lever, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Donc, hein, d'accord ? On a reçu, on a accepté, on est mis debout. Et on va lui dire un grand merci tous ensemble. Un, deux, trois. Merci ! Encore une fois, merci ! Et nous restons debout pour chanter « Tu es merveilleux » et en même temps recueillir votre offrande.
Comme toi, Dieu puissant, éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.
Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider.
Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est
Seigneur, notre offrande, c'est une manière de te dire merci pour tout ce que tu as fait. Tu es merveilleux dans tout ce que tu as fait. Seigneur, bénis les personnes qui recevront cet argent. Bénis les personnes qui l'utiliseront. Merci. Amen. Vous pouvez rester debout parce que c'est la bénédiction et après il y aura encore deux petites annonces. Place ta confiance en Dieu, ton Père, et revêt-toi de cette conviction inébranlable. Mon Père sait tout, peut tout et conduit bien toutes choses. Mon Père est bon, mon Père m'aime. Allez dans l'amour, la bonté et la paix de Dieu, et tout au long de cette semaine, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Amen. C'était des paroles de Basilea Schlink, pour ceux qui se souviennent d'elle. Boris a une annonce à nous faire.
Je saute sur l'occasion de, que Philippe nous a parlé de la réforme. La semaine prochaine, le 5 octobre, il y a une journée à la Pellisserie sur Calvin et le réveil de Genève. La journée sera donnée par Jean de Corvet, qui est recteur et un spécialiste du réveil, et Christian Reichel. Donc, vous êtes vraiment bienvenus pour continuer à vous nourrir sur ces deux périodes historiques chrétiennes. Et je vous invite vraiment cordialement pour toute la journée de cette journée à la Pellisserie. Merci.
À quelle heure ?
C'est de 9h à 17h. Vous avez des flyers sur le présentoir, donc vous pouvez venir me voir, vous pouvez prendre le flyer, il y a une inscription à faire. Merci.
Ça sera enregistré.
Non.
Oui.
Ah.
Mais c'est pas un tour de la réforme.
Mais il y a aussi un tour du musée de la réforme en même temps.
Ouais.
Et une annonce plus prosaïque. Des rangements ont été faits dans le bâtiment, des objets trouvés, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Si par hasard vous avez perdu quelque chose, ou bien allez voir, ils sont à la salle de la réunion dans l'étage du bas. Bon dimanche à chacun.
Merci Denise.